Donc, je vous remercie beaucoup, Monsieur Sonetti, de m'avoir invité à faire ce séminaire. Alors, je ne vous aurais jamais dû dire que j'étais PhD, parce qu'en fait, je me suis perdue dans l'immunologie sur le tard. Donc, je vais essayer de vous faire un survol en 45 minutes de vieillissement immunitaire. Ça va être vraiment un survol, ça ne va pas être quelque chose de très précis. Puis ensuite, je vous parlerai un peu de la pathologie chez le sujet âgé. Alors en fait, le vieillissement immunitaire, j'ai l'impression que c'est une discipline assez récente qui a à peu près 20-25 ans et ça a évolué pas mal ces derniers temps. C'est assez à la mode et il y a beaucoup de progrès qui sont faits. Donc voilà. Donc déjà, le constat, c'est, vous le savez, d'abord avant d'arriver là, j'ai toujours, quand je fais des cours, j'oublie toujours de définir une chose importante. C'est quoi être un sujet âgé? Parce qu'on me pose souvent cette question à la fin de mon cours et je n'y ai pas pensé. Donc là, j'ai dit, je vais en parler dès le départ. C'est difficile. En fait, moi, je suis gériatre. On me dit, mais c'est quoi? Tu vois qui comme patient? Alors, un sujet âgé, quand on regarde la définition de l'OMS, ne pleurez pas, c'est un patient de plus de 65 ans. Je trouve que c'est un petit peu dur. En pratique, le sujet âgé, dans les revues, souvent, c'est à partir de 75 ans. Définir un sujet âgé. Et les patients, on va le voir, le vieillissement est très hétérogène. Et en fait, alors si on ça change. Si on, par exemple, on s'intéresse au cancer, l'INCa considère qu'il faut être plus vigilant à l'égard des patients à partir de 70 ans, par exemple, de les montrer à des oncogériatres. Vous voyez, il y a plusieurs âges. Moi, globalement, c'est 75 ans. Et un sujet âgé qui intéresse les gériatres, c'est souvent un patient âgé qui est polypathologique, qui a plusieurs pathologies, qui posent plusieurs problèmes et souvent qui font la complexité et le grand intérêt de cette discipline qu'est la gériatrie. Alors l'espérance de vie, comme vous le savez, elle augmente régulièrement. Vous avez vu, depuis les années 1900, elle a pratiquement doublé. On estime que les sujets de plus de 75 ans vont doubler entre 2000 et 2030. Également un doublement des patients de plus de 75 ans en France, puisqu'on aura 8,3 millions sujets, je ne dis pas patients, sujets de plus de 75 ans en 2030 et 2,4 millions de sujets de plus de 85 ans en 2030, c'est ce qui est estimé. Les dernières données de l'espérance de vie liées à l'âge sont les données de l'INSEE en fonction de l'âge. Vous voyez que si l'espérance de vie à la naissance d'une femme est de 85 ans et d'un homme de 78 ans, eh bien quand on arrive à 75 ans, heureusement, c'est bien de le savoir, il y a encore une espérance de vie d'au moins 14 ans, enfin, environ 14 ans pour une femme, de pas loin de 11 ans pour un homme. Et puis on est content d'apprendre que quand on arrive à 85 ans, eh ben on a encore une espérance de vie de 7 ans et de 6 ans quand on est un homme. C'est des données générales. Bien sûr, c'est très variable d'un sujet à l'autre. Moi, j'aime bien montrer ça à mes confrères parce que parfois, on a tendance à dire oh, il est âgé, excusez-moi de parler comme ça, on ne va rien faire. Mais non, il faut vraiment avoir ces notions. On vieillit de plus en plus. Bon, le plus important, c'est de vieillir bien sûr. Et donc, l'augmentation de ces sujets âgés, qui se fait surtout au niveau des pays industrialisés, mais partout dans le monde, fait qu'on estime qu'en 2050, il y aura 2 billions de sujets de plus de 65 ans dans le monde. Ce vieillissement, bien sûr, est hétérogène au niveau des organes, et c'est pour ça qu'on va parler du système immunitaire, et également au niveau individuel. Le vieillissement est très variable en fonction de facteurs génétiques, M. Sansonetti en a parlé, des facteurs environnementaux, bien sûr, de notre comportement, de notre mode de vie, et puis des facteurs sanitaires, sociaux. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte, c'est ce qui fait la difficulté des études du vieillissement, d'ailleurs. Vous voyez que on va imaginer que ces gens ont le même âge, vous allez me croire sur parole, et ben on peut avoir le même âge et pas être toujours avec la même forme. Voilà. Donc en gériatrie, on a tendance, surtout en oncogériatrie, à définir trois types de vieillissement. Le vieillissement normal, comme la plupart des personnes, qui est un vieillissement harmonieux. Des gens qui ont été touchés par des pathologies fréquentes ou qui ont été impactés par des facteurs environnementaux comme le tabac, l'alcoolisme, peuvent faire un vieillissement plus précoce et arriver à un âge en étant, on va dire, fragile. Et puis, il y a des gens, heureusement, je pense qu'il y a une bonne partie de personnes dans cette salle qui font partie des gens qui ont un vieillissement vigoureux, qui sont des gens qui font plus jeunes que leur âge, qui sont en forme. Souvent, ils ont mis du leurre pour arriver là. Ils ont fait pas mal de sport, ils n'ont pas trop fumé, pas trop bu. Il y a souvent ces impacts-là qui jouent, mais il y a également la génétique. Donc en fait, plus on vieillit, plus on s'expose à des maladies, et probablement que les maladies infectieuses ont un impact majeur sur la morbidité et la mortalité des seniors. Il a été montré que en fait, les maladies prévenues par la vaccination tuent 1000 fois plus les sujets âgés que les enfants. Donc c'est important la vaccination. Et tout le monde veut essayer de vieillir le mieux possible, le mieux, et puis vieillir le plus longtemps possible. C'est ce qu'on appelle la quête du Saint Graal gérontologique. Je crois que ce qui est important, c'est d'améliorer aussi notre qualité de vie. Alors on va parler, je vous en parle en premier parce que ça m'a un petit peu interloqué, c'est des données un peu récentes. C'est vrai que le vieillissement métabolique a probablement un impact important sur le vieillissement immunitaire. Le vieillissement métabolique qui entraîne une diminution de la graisse sous-cutanée et une augmentation de la graisse viscérale s'accompagne également de lipides ectopiques au niveau de certains endroits, dont le thymus, et on verra, ça a un impact sur l'atrophie thymique. Il a probablement un rôle non négligeable dans le phénomène d'inflammaging, dont je vous reparlerai tout à l'heure. Alors d'abord, j'essaie de ne pas vous faire affront, mais je vous rappelle brièvement ce que c'est que l'immunité. Donc c'est l'ensemble des facteurs hormonaux et cellulaires qui protègent l'organisme contre les infections, enfin les agressions. Il y a en fait deux types d'immunité. Peut-être prendre celui-là, parce que le mien, il n'est pas terrible. Donc l'immunité innée non spécifique, en fait, qui correspond à des défenses immédiates contre un microbe, et qui comprend des phagocytes polynucléaires, en particulier les monocytes et les macrophages, les cellules NK et le système du complément. Et puis l'immunité acquise spécifique, qui est une immunité plus retardée, en fait, qui comprend une immunité humorale et une immunité cellulaire, avec surtout des lymphocytes T et B et des cytokines. C'est très réducteur, bien sûr, tout ça. Les cellules immunocompétentes sont essentiellement produites au niveau de la moelle osseuse, avec au départ la cellule souche hématopoïétique, qui va se transformer en cellule souche myéloïde ou cellule souche lymphoïde, puis ensuite qui va donner les progénitaires des granulocytes et des monocytes, qui ensuite donnera les polynucléaires, les monocytes macrophages et les cellules dendritiques, et les cellules souches lymphoïdes qui vont donner ensuite les lymphocytes B, les lymphocytes T et les lymphocytes NK. Alors en fait, quand un micro-organisme pénètre dans l'organisme, il y a mise en jeu d'une immunité rapide qui est l'immunité innée, en fait, qui fait appel aux polynucléaires neutrophiles, aux monocytes macrophages qui vont en fait phagocyter cet organisme, le tuer, déclencher une réaction inflammatoire et en fait vont également entraîner une maturation et attirer les cellules professionnelles présentatrices de l'antigène, les cellules dendritiques, et qui vont permettre la relation ensuite vont permettre d'initier l'immunité spécifique, qui en fait, elle, va être une immunité plus retardée, qui va en fait conférer ensuite une mémoire immunologique, ce qui fait que ce micro-organisme, la prochaine fois qu'il viendra dans notre organisme, sera immédiatement éliminé grâce à l'immunité spécifique retardée, grâce à des cellules de mémoire qui sont générées et qui persistent en théorie tout au long de notre vie. L'immunité spécifique, ici, vous avez l'exemple d'un lymphocyte T, CD4 naïf qui va interagir soit avec un lymphocyte T CD8 cytotoxique dans le cadre d'une réaction de type TH1, donc c'est l'immunité plus cytotoxique, et ici il interagit avec un lymphocyte B dans le cadre d'une réaction de type TH2 qui va entraîner la sécrétion d'anticorps qui vont ensuite permettre la destruction du micro-organisme. Les étapes de la réponse immune spécifique, là aussi c'est très grossier, mais voilà, schématiquement vous avez ici un lymphocyte T CD4 naïf, c'est-à-dire qui n'a jamais été en contact avec avec un peptide antigénique qui va en fait être en relation avec cette cellule présentatrice d'antigène qui a apprêté l'antigène, qui se retrouve sous forme de peptide à sa surface en association avec le complexe majeur d'histocompatibilité. Donc il y a une reconnaissance de l'antigène par ce lymphocyte T qui va ensuite s'activer, proliférer, et puis il va y avoir soit une orientation donc vers une réaction de type TH1 avec interaction avec des lymphocytes CD8 cytotoxiques, soit une réaction de type TH2 avec interaction avec des lymphocytes B et sécrétion d'anticorps. Vous voyez que donc il y a vraiment une interrelation entre l'immunité innée et l'immunité spécifique. Et au niveau de l'immunité innée, il y a une interrelation importante entre le système adaptatif et humoral. Je vous dis ça parce qu'effectivement, on va un petit peu étudier les différents compartiments les uns après les autres, mais en fait, tout est quand même relativement lié. Donc, est-ce qu'il y a un vieillissement du système immunitaire? Je ne vais pas vous laisser trop dans le suspense. Oui, il y a un vieillissement du système immunitaire. C'est pas quelque chose qui involue de façon, régulière tout au long de la vie. C'est quelque chose qui est un remodelage en fait qui est assez complexe avec certaines fonctions qui sont altérées, donc qui sont au contraire un petit peu exagérées. Donc on va voir un petit peu successivement les différentes parties et de façon, je vous dis, assez générale. Et après on verra les aspects cliniques. Alors, les barrières cutanéo-muqueuses, elles permettent de protéger la pénétration des organismes, des pathogènes dans l'organisme. On verra qu'il y a une altération de différentes barrières cutanéo-muqueuses avec le vieillissement, la peau, le tractus respiratoire, le tractus gastro-intestinal et le tractus urogénital. En fait, au niveau de la peau, avec le vieillissement, comme je vous le disais, il y a une diminution du tissu sous-cutané, de l'épaisseur du tissu sous-cutané. Il y a également une diminution de l'élasticité de la peau, ce qui fait qu'il y a des risques plus importants d'effraction cutanée. Et on le voit en pratique clinique chez des sujets âgés à l'hôpital. Souvent, ils ont facilement des plaies qui peuvent être générées malheureusement à l'hôpital par des pansements qu'on arrache et hop, la peau qui s'en va. Donc, c'est souvent des facteurs d'entrée infectieux. Au niveau des poumons, on décrit une diminution des réflexes protecteurs des voies aériennes avec le vieillissement. Également, des anomalies du tractus mucociliaire avec une diminution de la clairance mucociliaire. En fait, les cils bronchiques, c'est une espèce de tapis roulant au niveau des bronches qui permet d'éliminer régulièrement les micro-organismes qui y pénètrent. On note également une diminution de l'immunité locale, que ce soit les cellules T ou l'IgA, les IgA locales. Et également la baisse de l'acidité gastrique. Ça n'a pas l'air d'avoir de rapport, mais en fait, l'hypochlorhydrie gastrique est un facteur de modification de la flore bactérienne au niveau de l'estomac, et c'est un facteur de pneumopathie. Ça, c'est la physiologie, c'est le vieillissement, mais il y a aussi un cas classique en pratique clinique, les inhibiteurs, la pompe à protons, que vous connaissez tous, le Mopral, tous ces médicaments, le Pariette, que beaucoup de patients âgés prennent, de façon, à mon avis, excessive, entraînent une hypochlorhydrie gastrique et sont probablement, c'est prouvé, des pourvoyeurs de pneumopathie par cette hypochlorhydrie gastrique. Mais là, on n'est pas dans le contexte du vieillissement, on est dans le contexte de la pathologie et du traitement, mais c'est juste pour vous faire un petit aparté là-dessus, parce que c'est un problème, à mon avis, de santé publique. Alors, les altérations du tractus, il y a la diminution de l'acidité gastrique, qui est fréquente avec le vieillissement, l'amincissement de la muqueuse digestive, avec sur le plan local une diminution en fait des structures lymphoïdes locales au niveau des muqueuses, également des IgA locales, des réponses de type IgA, également une diminution de la motilité intestinale. Il y a une pathologie par exemple qui est assez fréquente chez le sujet âgé, c'est la diverticulose sigmoïdienne, qui en fait ce sont des petits diverticules qui se forment à travers la paroi intestinale et qui vont former des petites poches et s'infecter. Et cette maladie, en fait, souvent c'est asymptomatique, mais en vieillissant, on peut avoir des infections de ces diverticules qui peuvent être très graves. Au niveau urogénital, en fait, le vieillissement peut entraîner des obstacles mécaniques. Chez l'homme, par exemple, l'adénome de la prostate ne peut pas faire qu'on peut avoir un retard de vidange de la vessie. L'adénome de la prostate, c'est pas l'adénome, l'augmentation du volume de la prostate, ça fait partie du vieillissement physiologique. Hein. Chez la femme, on a tendance à avoir une hypotonie vésicale avec le vieillissement. Et également, les modifications hormonales, la privation œstrogénique après la ménopause, en fait, vont modifier le pH et augmenter en fait, le portage de certaines bactéries au niveau vésical. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'on a beaucoup de bactériuries asymptomatiques hein, chez l'homme et chez la femme. On s'est aperçu depuis plusieurs années qu'il ne faut surtout pas les traiter. On avait tendance à traiter ces bactériuries de façon systématique et en fait, on était iatrogène, donc on s'est aperçu que c'était quelque chose de physiologique, sans que ce soit pathologique. C'est un portage asymptomatique en fait, de ces bactéries. Alors, si on arrive aux cellules souches hématopoïétiques, en fait, on va venir maintenant dans la moelle. En vieillissant, en fait, donc ces cellules souches, elles ont une capacité d'auto-renouvellement. Cette capacité va être diminuée. En fait, il y a une espèce d'altération de leur programme de différenciation également, qui fait que ces cellules souches, vous avez vu, elles peuvent se différencier en progéniteurs myéloïdes ou lymphoïdes, enfin les deux. Et en fait, il y a une augmentation du potentiel myéloïde et une diminution du potentiel lymphoïde. Alors ça, c'est un schéma qui est un peu complexe même pour moi, mais je vous l'ai mis là juste pour vous montrer en fait que ici, vous avez la cellule souche hématopoïétique qui est là en fait. Ici, vous avez en fait des niches ostéoblastiques. Et en fait, cette cellule souche, elle va produire plus volontiers... ça c'est chez le sujet jeune, pardon. Et en vieillissant, vous voyez, il y a une augmentation du potentiel en fait, des progéniteurs myéloïdes aux dépens des progéniteurs lymphoïdes. Voilà. Il y a également une augmentation des adipocytes, vous voyez, au niveau de la moelle. On va voir en fait il y a probablement avec le vieillissement des modifications du micro-environnement au niveau de la moelle qui sont à l'origine ces anomalies. Ce n'est pas très connu, hein, c'est des choses nouvelles, tout ça. Il y a également des causes extrinsèques, probablement la diminution de la production d'hormones de croissance qui joue un rôle, puisque en fait, quand on substitue en hormones de croissance des rats âgés, cela permet d'augmenter l'hématopoïèse. Puis il y a également la production d'hormones stéroïdiennes qui peut jouer un rôle sur cette diminution du renouvellement des cellules souches hématopoïétiques. En fait, il y a même des conditions de stress. Enfin, là, on est aussi en dehors du vieillissement, mais les hormones stéroïdes, en fait, ont sûrement un rôle. Le cortisol, qui est sécrété en cas de stress, a un rôle en fait sur l'immunité à plusieurs niveaux, en fait. Donc si on reprend l'immunité innée, on va voir un petit peu les cellules les unes après les autres. En fait, au niveau des polynucléaires neutrophiles, avec le vieillissement, leur nombre est à peu près stable. Ils ont tendance par contre à avoir une diminution de leur capacité de phagocytose. Leur activité de microbicidie aussi, elle est diminuée. Ils ont moins de chimiotactisme en fait. Et il y a également une diminution de la production des anions superoxydes dont parlait M. Sansonetti. Ils sont également plus sensibles à l'apoptose. Et là aussi, rôle du stress. En cas de stress, les sécrétions de cortisol en fait, peuvent aggraver ces anomalies. D'autant qu'en vieillissant, il y a une hormone qui s'appelle la dehydroépiandrosterone, qui diminue et qui ne contrebalance pas, en fait, qui normalement contrebalance les sécrétions de cortisol, et du coup, ça aggrave encore l'impact de ces sécrétions de cortisol en cas de stress. Quand on dit stress, C'est le stress d'une maladie, c'est le stress, ça peut être un stress de diverses origines. Hein. Donc probablement que c'est polynucléaire neutrophile. Sur le plan du vieillissement, il y a des choses qui se passent, mais il y a aussi l'influence des maladies chroniques. On va y revenir, parce que le problème du vieillissement, c'est vraiment de... Chez le sujet âgé, en fait, c'est d'étudier vraiment le vieillissement. Or, il y a souvent l'impact des maladies qui sont là et qui font qu'on a du mal à faire la part des choses. Les cellules dendritiques, en fait, en vieillissant, leur nombre a tendance à diminuer et elles sont également un petit peu moins fonctionnelles. C'est variable selon les sujets. Alors, je vous ai fait juste une diapo là-dessus. En fait, je pense qu'elle est assez cette baisse de la fonction est sûrement sous-estimée. Il y a pas mal de recherches en ce moment sur les cellules dendritiques et quand même, c'est des cellules qui communiquent, qui permettent la communication entre l'immunité innée et adaptative. Et avec le vieillissement, il y a probablement une altération de cette communication entre les cellules dendritiques et le lymphocyte qui est probablement à l'origine aussi des anomalies du système adaptatif que l'on va voir. Le lymphocyte NK, en vieillissant, on a grosso modo le nombre de lymphocytes NK en fait il augmente un petit peu, mais c'est surtout dépend de certaines sous-populations de lymphocytes NK qui sont moins fonctionnelles en fait, qui sont les CD16+, CD56+, CD57+, et en fait ce sont des lymphocytes qui vont moins bien proliférer en présence d'interleukine 2. Vous savez que la lymphocyte NK, c'est une cellule qui arrive comme ça, assez rapidement, qui a une cytotoxicité naturelle, qui va être attirée sur le lieu de la réaction inflammatoire et qui va en fait entraîner une cytotoxicité directe. Et en fait, sa capacité de cytotoxicité en vieillissant est diminuée. Mais comme le nombre augmente, globalement, leur activité n'est quand même pas trop modifiée. Alors, les macrophages... Pardon. Ils ont un nombre stable en vieillissant. Eux également, ils ont aussi des problèmes avec leur phagocytose et leur chimiotactisme. Également une diminution de leur activité bactéricide. Par contre, en fait, quand ils sont activés, ils ont tendance à produire en grande quantité des cytokines pro-inflammatoires, dont on va un petit peu reparler tout à l'heure, en particulier l'interleukine 1, l'interleukine 6 et le TNF-alpha. Et il participe probablement à ce qu'on appelle ce statut inflammatoire qu'on appelle l'inflammaging, en fait, qui est un statut inflammatoire qui caractérise le vieillissement immunitaire, avec souvent une augmentation de la CRP, de l'IL-6 aussi, et qui a probablement un impact sur certaines maladies chroniques, comme l'athérosclérose, la polyarthrite rhumatoïde, l'ostéoporose, également la maladie d'Alzheimer. Il y a d'autres cellules qui interviennent dans ce statut inflammatoire. Alors, concernant l'immunité humorale, donc, le lymphocyte B, lorsqu'il est activé, il se transforme en plasmocyte. Il va sécréter donc, les anticorps, IgG, IgA, IgM. En fait, déjà, ne serait-ce qu'au niveau de la maturation, au niveau de la moelle, déjà, il y a une anomalie de la maturation de ces lymphocytes B, puisque en fait, le nombre absolu de lymphocytes pro-B va être nettement diminué avec une baisse de leur capacité à se différencier en lymphocytes pré-B. Pourtant, quand on regarde dans le sang, en fait, le nombre de cellules B périphériques est à peu près constant. En fait. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, en vieillissant, on va le voir pour les cellules T, mais c'est également le cas pour les cellules B, on a une accumulation de cellules B mémoire et une diminution de cellules B naïves. Donc les cellules B mémoire, celles qui ont été en contact avec un antigène, hein, qui sont déjà qui ont une mémoire immunologique, et les cellules B naïves n'ont pas encore été en contact. Donc ces lymphocytes qui sécrètent des anticorps, en fait, il n'y a pas tellement d'altération des anticorps. Le taux d'immunoglobuline est stable. Au contraire, on voit parfois, et moi je l'avais vu, on avait fait une étude chez le sujet âgé, il y a plutôt une augmentation de la synthèse des IgA et parfois des IgG également, mais c'est vrai qu'il faut se méfier quand il y a un contexte inflammatoire, ça fait augmenter aussi les immunoglobulines. Les anticorps sont caractérisés par une diminution de leur diversité et de leur affinité en fait. Pourquoi ? Parce qu'il y a surtout une atteinte de la réponse primaire en fait. Hein, c'est ces anticorps, globalement, les réponses secondaires vont être conservées. C'est-à-dire qu'en présence d'une réintroduction d'un antigène, la réponse mémoire va être conservée. C'est plutôt les réponses primaires qui vont être altérées. C'est pourquoi, on va le voir, il y a un impact sur la vaccination chez le sujet âgé. Alors, ça vient d'où, ça? Ça vient sûrement d'une altération de la coopération entre les cellules T et B, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec le vieillissement, il y a une altération du répertoire antigénique des lymphocytes B du fait d'une moindre diversité d'anticorps. Ces anticorps ont moins d'affinité. Alors, ça vient probablement d'un défaut fonctionnel des cellules B, tout ça. Et puis, il y a également, les cellules B ont tendance aussi à avoir une perte de l'acuité dans la distinction du soi et du non-soi. En fait, elles ont plus de mal à reconnaître les signaux de danger. Et on a une augmentation de certains clones de lymphocytes B, en fait, qui sont des clones qui sont de type CD5+, en fait, CD19+, CD5+, qui vont être en excès et qui peuvent probablement expliquer la recrudescence des hémopathies lymphoïdes chez le sujet âgé, dont une maladie qui est très connue, c'est la leucémie lymphoïde chronique. Également, la recrudescence de la production d'anticorps monoclonaux, en fait. Ce qu'on appelle en anglais les monoclonal gammopathy of underterminal signification. En fait, c'est ce qu'on appelait avant les gammopathies monoclonales bénignes. Donc, c'est une sécrétion en excès d'un anticorps de type IgA, IgG ou IgM qui, en fait, le plus souvent est anodine puisque 10% des patients de plus de 80 ans ont ça. Donc, ça se surveille. En général, il ne faut pas trop s'exciter quand on a ça, il ne faut pas trop s'inquiéter. De temps en temps, ça évolue vers d'authentiques myélomes qui est une maladie plus sérieuse. Alors, auto-immunité et vieillissement. C'est 10 à 20% des sujets après 60 ans. On a, avec le vieillissement, l'augmentation de la production d'auto-anticorps. Par exemple, les anticorps antinucléaires, les anticorps antithyroïdiens, le facteur rhumatoïde. Pourquoi cette augmentation? À cause de l'augmentation de ces clones de lymphocytes B, CD5+. Également, probablement, du fait de la baisse de certains lymphocytes régulateurs, qui sont des lymphocytes qui ont une action inhibitrice, normalement, qui vont diminuer avec le vieillissement et qui vont favoriser l'émergence de ces auto-anticorps. Alors, ça inquiète beaucoup les patients quand on recherche ces anticorps, en fait, à partir d'un certain âge. Si vous faites des anticorps à quelqu'un, vous allez les trouver souvent positifs. C'est fréquent d'avoir des anticorps antinucléaires au 100e, au 200e. Mais en fait, ils ont rarement une traduction clinique. C'est quelque chose de, on ne va pas dire banal, mais c'est assez fréquent. Sauf pour trois pathologies qui sont un petit peu plus fréquentes avec le vieillissement, qui sont l'anémie de Birmer. L'anémie de Birmer, en fait, ce sont des anticorps qui sont dirigés contre les cellules pariétales de l'estomac et contre le facteur intrinsèque, qui vont en fait bloquer l'absorption d'une vitamine qu'on appelle la vitamine B12, et qui vont entraîner donc une anémie par carence en vitamine B12. C'est assez simple à traiter, il suffit de donner de la vitamine B12. Les dermatoses bulleuses aussi, qui sont des maladies plus fréquentes en vieillissant, et les thyroïdites auto-immunes. La pathologie thyroïdienne est une pathologie en recrudescence avec le vieillissement. Mais sinon, il n'y a pas trop d'impact de ces auto-anticorps sur l'immunité, sur d'autres pathologies. Donc, ce qui est important, enfin, déjà, quand on dose des anticorps, il ne faut pas les doser comme ça à l'aveugle, mais ce qui est important, c'est d'avoir un contexte clinique, c'est de voir le patient avant de regarder la biologie. Alors, l'immunité cellulaire, maintenant, donc, comme vous le savez, donc, nos progéniteurs, les lymphocytes vont avoir une maturation au niveau du thymus, qui va donc favoriser, je vous l'ai déjà dit, deux types de lymphocytes T CD4, les CD4 TH1 et TH2, qui vont en fait, pour les TH1, faciliter l'immunité cellulaire, et pour les TH2, faciliter la coopération avec le lymphocyte B, et puis les CD8, qui sont les lymphocytes T cytotoxiques. Alors, d'une manière générale, sur le plan d'immunité cellulaire, on a une diminution des réactions d'hypersensibilité cutanée retardée. Vous savez, c'est quand on fait un test, une intradermoréaction à la tuberculine, en fait, on fait appel à cette hypersensibilité cutanée retardée qu'on regarde 3 jours après une injection intradermique de tuberculine. On note également avec le vieillissement une diminution des réponses prolifératives. Si on met des lymphocytes avec des anticorps anti-CD3 ou avec de la phytohématoglutinine, ça prolifère. Et on regarde ça au bout de 3 jours. Avant, on incorporait de la thymidine tricyée dans ces lymphocytes. Maintenant, on utilise plutôt des colorants et on regarde le nombre de lymphocytes qui ont proliféré. On a globalement une diminution de ces réponses prolifératives. Alors, pourquoi tout ça ? C'est surtout l'involution thymique qui est vraiment une cause majeure du déclin des compétences immunitaires du sujet âgé, en fait. Et on va dire sujet âgé, c'est un petit peu vache, parce que le thymus, il régresse dès 9 mois, il commence à diminuer. Et ensuite, il va avoir plusieurs phases de régression rapide. Et en fait, c'est un reliquat après 50 ans. Et qu'est-ce qui se passe ? L'espace thymique, en fait, est remplacé par de la graisse. Donc, on a longtemps pensé que cette graisse venait remplir cet espace parce qu'il n'y avait plus rien. En fait, on va en parler, il est probable que ces adipocytes aient un rôle toxique sur le thymus. Donc du coup, il va avoir du mal à générer des lymphocytes naïfs et donc à maintenir un répertoire avec des cellules naïves. Alors c'est un processus qui n'est pas très bien compris, qui est multifactoriel, mais on pense qu'il y a probablement un rôle d'acides gras thymiques et de lipides qui vont avoir une action toxique au niveau du lupus avec un état inflammatoire local. Ils vont entraîner une altération du micro-environnement thymique stromal. Alors, il y a le rôle sûrement d'expression de gènes. Il y a également le rôle des hormones, puisqu'en fait, le thymus commence à, je vous l'ai dit, c'est très tôt, et souvent, à partir de l'adolescence, il y a vraiment une évolution plus marquée avec l'apparition des hormones, avec la diminution de l'hormone de croissance et avec l'apparition des stéroïdes. Donc, probablement un rôle hormonal important. Et puis également le rôle de l'interleukine 7. Voilà. Donc, là, c'est juste un schéma un peu compliqué, mais pour vous montrer chez une souris de 3 mois. Et ici, c'est une souris qui est considérée âgée à 24 mois. Vous voyez la différence de population au niveau des schémas. Là, ici, vous êtes. Ici, c'est le cortex, la zone cortico-médulaire et la zone médulaire, avec différents types de cellules épithéliales thymiques qui, vous voyez, vont se raréfié avec le vieillissement. Et au contraire, on voit une accumulation de ces adipocytes au niveau du tissu thymique. Et puis, il y a c'est moins bien rangé, hein, c'est désorganisé. Voilà. Encore une autre en fait, approche, c'est pour un petit peu essayer de vous montrer le modèle. Je pense que je ne vais pas insister, mais simplement, voilà, pour voir un petit peu la différence entre les deux images, avec donc un thymus jeune qui va plutôt avoir tendance à sécréter pas mal de cellules cellules T naïves, et avec le vieillissement, la diminution de production de ces cellules T naïves. Alors, on va se demander pourquoi, comment on va faire, puisqu'on en a moins, et ces cellules T naïves, elles sont quand même importantes pour lutter contre les nouveaux pathogènes, en fait. On pense qu'il y a probablement une production extra-thymique de cellules naïves, mais en fait, on ne sait pas bien. Alors, du coup, on va regarder un petit peu plus les sous-populations. On va voir qu'elles sont modifiées. Donc, on a vu, il y a une diminution des lymphocytes T naïfs, surtout les CD4, mais également les CD8. Ces lymphocytes T, en fait, vont être moins fonctionnels, en plus. Ils vont moins bien s'activer. Ils vont moins sécréter d'interleukine 2 et de récepteurs à l'interleukine 2. Et on s'est aperçu qu'ils avaient une durée de vie prolongée, en fait. Ils ont également une altération de leur capacité de différenciation. Ils vont plutôt s'orienter vers la réponse TH2, vous savez, celle qui permet la coopération avec le lymphocyte B, alors que la réponse TH1 va plutôt diminuer. Et ces lymphocytes naïfs, lorsqu'ils seront transformés en lymphocytes mémoire, en fait, les lymphocytes mémoire issus de ces lymphocytes naïfs vont être moins fonctionnels. C'est-à-dire que quand on prend des souris jeunes et des souris âgées, et on prend leurs lymphocytes naïfs, en fait, on les stimule et on obtient des lymphocytes mémoire, on s'aperçoit que les lymphocytes mémoire des souris âgées sont moins fonctionnels que les lymphocytes mémoire des souris jeunes. Et lorsqu'on prend même les lymphocytes naïfs des souris âgées et qu'on les met chez la souris jeune, ils sont également moins fonctionnels. Donc c'est probablement quelque chose qui est intrinsèque à la cellule naïve et non pas environnemental. Et avec l'âge, on a tendance à accumuler des lymphocytes T mémoire qui ont le phénotype CD45RA+. Puisque vous voyez, à 20 ans, on a à peu près 40% de cellules mémoire. Et en fait, plus on vieillit, plus on en a. Et à 65 ans, on en a 60% en moyenne. Et à 80 ans, 90%. Alors, bon, ça, c'est un schéma un petit peu compliqué, mais c'est juste pour vous dire qu'a priori, on pense que c'est surtout les cellules T naïves qui en fait... ont une durée de vie augmentée. Pourquoi ? Parce qu'avec le vieillissement, il y a une diminution de synthèse de cette protéine pro-apoptotique qui s'appelle BIM. Et du coup, en fait, ces cellules ne vont pas rentrer en apoptose, donc elles vont avoir une durée de vie allongée. Et en fait, elles vont persister en périphérie, mais du coup, vont acquérir des déficits liés au vieillissement. Et c'est probablement... une partie des explications de l'atteinte de l'immunité cellulaire avec le vieillissement. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, il y a également la présence de trous dans le répertoire. En fait. Il va y avoir, en fait, vu que les cellules naïves vont diminuer, que les cellules mémoire vont augmenter, il va y avoir certains clones qui vont s'accumuler aux dépens de d'autres, et en particulier des clones qui vont être spécifiques d'infections virales chroniques qui persistent tout au long de la vie, qui sont bien connus, qui sont l'infection à Epstein-Barr virus et l'infection à cytomégalovirus. Il y en a d'autres. Et en fait, ces infections, comme elles persistent au niveau de l'organisme, il va y avoir une stimulation antigénique permanente et du coup, l'organisme se bat et réagit en accumulant des lymphocytes mémoire contre ces virus. Et ces lymphocytes mémoire, en fait, vont occuper tout l'espace immunologique. Alors, ça va faire quoi ? Ça va faire qu'il va y avoir une diminution du répertoire antigénique des lymphocytes T avec au contraire une diminution des lymphocytes mémoire spécifiques d'autres antigènes. Alors, il y a également un élément qu'on voit et qui est un marqueur de fragilité. Cette altération des lymphocytes est plus marquée sur les CD4 que sur les CD8 et donc on a souvent, enfin je dis souvent mais c'est faux, on peut avoir une inversion du rapport CD4 sur CD8 qui est en fait un marqueur de fragilité. Un peu comme dans le VIH. Hein. Souvent, l'infection VIH a été mise en parallèle avec le vieillissement immunitaire. Alors, en pratique, c'est 12-15% des patients âgés hein, qui ont ça, mais c'est souvent les plus fragiles. Alors, à contrario, il y a une augmentation de certaines sous-populations T qui sont des cellules mémoire effectrices terminales. En fait, ce sont des CD8+. Qui ont perdu l'expression du récepteur de co-stimulation, le CD28, qui est un récepteur très important dans la stimulation et l'activation lymphocytaire T. Ces cellules, en fait, ont une capacité réduite de réplication. Elles ont des télomères qui sont assez courts. Elles vont avoir tendance à produire des cytokines pro-inflammatoires qui vont sûrement agir également dans le fameux mécanisme d'inflammaging. Et elles ont une résistance à l'apoptose. Et là aussi, ce sont des cellules, c'est un petit peu celles dont on parlait tout à l'heure, qui vont remplir l'espace immunologique. Et on s'aperçoit en fait que ces cellules, quand on les type un peu plus, ce sont souvent des cellules spécifiques du cytomégalovirus. Les clones spécifiques de CMV peuvent occuper jusqu'à 50% de l'espace immunologique. Alors il y a aussi beaucoup de choses sûrement. Beaucoup de progrès à faire. Au niveau en intracellulaire, il y a quand même des anomalies avec le vieillissement de la reconnaissance de l'antigène. Avec, là c'est juste pour vous montrer la synapse immunologique, si vous avez un lymphocyte T, la cellule présentatrice d'antigène, Et vous avez entre les deux, c'est entre ces deux membranes, ce qu'on appelle la synapse immunologique, avec en fait une interrelation avec entre ces deux cellules, avec des molécules d'adhésion, des molécules de coactivation. Et en fait, pour que la formation de cette synapse s'est fait moins bien avec le vieillissement, probablement du fait de changements au niveau de la membrane même, au niveau du cytosquelette de la membrane. On s'est aperçu là aussi rôle néfaste du gras, hein. Le gras c'est mauvais finalement, avec en vieillissant on a une altération de ce qu'on appelle les rafts lipidiques, c'est des espèces de radeaux qui sont sur la membrane et qui vont augmenter en quantité et qui vont entraîner un encombrement au niveau des molécules et également diminuer la fluidité de la membrane, donc du coup les membranes adhèrent moins bien. Puis il y a une diminution de la proportion de cellules capables de former une synapse immunologique, et la synapse c'est souvent ça traduit l'activation cellulaire. Il y a également une altération des voies de co-stimulation avec le fameux CD28 que je vous montrais là, qui est là, hein, c'est un marqueur, il est indispensable à l'activation en fait, c'est un récepteur d'activation cellulaire qui est important. En vieillissant il peut disparaître. Et également, vous le voyez après, vous connaissez hein, toutes ces voies de signalisation qui sont induites par la rencontre entre l'antigène et la stimulation du récepteur T. Il y a tout un tas de cascades de signalisation avec le facteur NF-kappa-B dont on parlait tout à l'heure. En fait, il y a probablement et même sûrement des altérations au niveau de ces voies, avec des anomalies dans les phosphorylations, dans la translocation des facteurs de transcription. Ça touche en particulier certaines molécules comme ZAP70, LAT, également la protéine la PKC, et puis la réponse calcique. Voilà, il y a des Suédois qui ont fait des études chez des nonagénaires et des octogénaires. Il n'y a pas beaucoup d'études chez le sujet âgé, hein, mais il y a deux études longitudinales qui s'appellent les études octo et nona qui ont été faites en Suède. Et en fait, ces Suédois ont montré qu'il existait un phénotype de risque immunologique. C'est ce qu'ils appellent l'IRP, immune risque phénotype, en fait, qui associe une inversion du rapport CD4 sur CD8. Une diminution des réponses aux tests fonctionnels in vitro, une positivité de la sérologie CMV et une plus grande fréquence de lymphocytes T CD8+, CD28- et CD57+, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont spécifiques du CMV. Bien, lorsqu'on a ces marqueurs, lorsqu'on a tous ces facteurs, c'est vraiment, ils ont montré qu'il y avait une augmentation du risque de mortalité. C'est vraiment des marqueurs de fragilité et de mortalité. Alors, l'infection à CMV, je vous en ai parlé, elle a un rôle de plus en plus majeur dans le vieillissement immunitaire. Déjà, la longévité est corrélée, il a été montré que la longévité est corrélée au titre d'anticorps anti-CMV. Enfin, le taux d'anticorps anti-CMV est corrélé à la mortalité. C'est une étude de 2010 qui s'est faite sur 1500 sujets californiens. Également, le CMV est associé, c'est prouvé aussi sur cette autre étude qui est parue en 2011 dans le journal PLOS ONE. Le CMV est associé à une augmentation du risque de mortalité de toute cause, en particulier cardiovasculaire. Alors vous allez nous dire, ça nous fait une belle jambe. C'est vrai que le CMV, c'est quand même 80% de la population qui est immunisée. Donc c'est bien quand on n'est pas immunisé, mais on est souvent immunisé dans l'enfance, donc c'est bien gentil, mais je ne sais pas si on va faire grand chose avec tout ça, mais ça a quand même un rôle important. Le CMV donc, a sûrement un rôle dans l'inflammagène. Dans la première étude là, qui a montré un impact sur la mortalité avec le taux d'anticorps, c'était également corrélé à. Ils ont dosé aussi l'interleukine 6, et les patients qui avaient le taux d'anticorps le plus élevé, qui mouraient le plus, avaient également les taux d'IL-6 les plus importants. Alors pourquoi le CMV ? Probablement que le vieillissement immunitaire, il y a un épuisement en fait du système immunitaire par un engagement contre le CMV, donc c'est une stimulation antigénique chronique, et donc expansion de clones spécifiques de ce CMV. Juste ce petit schéma pour vous montrer que Donc voilà, là vous avez donc l'immunité innée. Ici donc vous avez donc au cours de l'infection aiguë, voilà, vous avez mis en jeu l'immunité innée, mis en jeu l'immunité adaptative avec la production de cellules mémoire. Et en fait là, quand on est dans une infection chronique, donc vous voyez que vous avez l'infection aiguë et puis ensuite il y a plusieurs stimulations antigéniques. Probablement qu'il y a plein de réactivations antigéniques qui se font, mais qui passent inaperçues. Et du coup, vous avez une augmentation du nombre de cellules mémoire contre ces virus. On parle beaucoup du CMV parce qu'il a probablement un impact majeur, mais sûrement que d'autres virus jouent un rôle. Je vous l'ai dit, il y a l'EBV, il y a aussi... il y en a d'autres. Alors, pour résumer, pour essayer de faire clair, donc l'immunité innée, elle est quand même affectée, mais elle peut être affectée, mais moins que l'immunité spécifique. C'est surtout l'immunité spécifique qui devient moins performante, avec une baisse de la diversité des anticorps. Et le déclin donc fonctionnel avec le vieillissement touche surtout les lymphocytes T, puis les lymphocytes B, puis l'immunité innée. Alors comment ça se traduit sur le plan clinique en fait? Il y a probablement, ça se traduit à trois niveaux, une augmentation de la sensibilité aux infections, une diminution de l'efficacité des vaccins et une augmentation de la susceptibilité au cancer. Je ne vous parlerai pas de la physiopathologie du cancer parce que ce n'est pas trop l'objet de ce séminaire. Donc, je vous parlerai par contre de la difficulté d'étudier le vieillissement puisqu'en fait, en vieillissant, en gros, entre 60 et 80% des patients au-delà d'un certain âge ont certaines pathologies qui sont là, le diabète, l'hypertension, la bronchite, et qui peuvent influencer bien sûr l'immunité. Donc c'est pas évident d'étudier le vieillissement immunitaire. Il faut avoir des gens qui sont en parfaite santé. Et en fait, il y a des gens qui ont défini en 1984, c'est Leichhardt, les critères du senior protocole. En fait, pour étudier l'immunité, ils ont dit voilà, il faut prendre des gens qui sont pas malades, mais pas du tout, qui n'ont pas d'infection, pas de maladie inflammatoire, pas d'antécédents de cancer, qui ont des analyses biologiques très, très parfaites, qui n'ont pas de médicaments qui peuvent interférer avec l'immunité, par exemple des corticoïdes, des anti-inflammatoires. Nous, on avait fait une étude là-dessus, on avait eu du mal à trouver des patients comme ça, enfin des sujets, parce qu'ils ne sont pas malades, et ce n'est pas évident. Il y a souvent des choses qui interfèrent, qui font qu'on ne peut pas les inclure. Et je regrette de ne pas être venue plus tôt dans cet amphithéâtre, parce que je suis sûre que ici j'aurais eu plein de patients. ça se traduit comment? Donc, comme c'est surtout l'immunité cellulaire qui est touchée, ce sont surtout des infections qui font appel à l'immunité cytotoxique qui vont être plus fréquentes, avec des réactivations d'infections virales chroniques, à herpès, au virus de la varicelle et du zona. Donc le zona, c'est une maladie qui est plus fréquente chez le sujet âgé. La tuberculose également, qui souvent peut être en résurgence avec le vieillissement. Des mycoses, c'est très fréquent en pathologie chez le sujet âgé qu'on voit des candidoses. C'est assez banal, mais c'est assez fréquent. Et puis les manifestations grippales qui sont plus sévères. Aux États-Unis, entre 10 000 et 40 000 décès par an du fait de la grippe, 90% de ces décès touchent des sujets de plus de 65 ans. Et puis les infections à pneumocoque, qui sont aussi une conséquence du vieillissement immunitaire. Ici, vous voyez une étude un petit peu vieille, mais qui montre l'augmentation de la prévalence des pneumonies à partir d'un certain âge. Et en vert, vous avez les pneumonies à pneumocoque. Donc c'est une maladie qui est quand même en augmentation avec le vieillissement. Également la tuberculose ici, vous voyez, c'est souvent des tuberculoses qui ont été acquises dans l'enfance avec des résurgences de vieilles tuberculoses avec le vieillissement. Alors les réponses vaccinales vont être également diminuées. En fait, le vaccin antigrippal confère une protection qui n'est pas absolue chez le sujet âgé, puisqu'elle est entre 30 et 50% contre 65 à 80% chez le sujet jeune. Mais en fait, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas se faire vacciner, puisqu'il est montré que même si le sujet âgé n'est pas protégé à 50%, le vaccin antigrippal a un impact sur la morbidité et la mortalité. qu'en fait, il diminue à peu près 60% des pneumonies à virus influenza. Il diminue également 60% des hospitalisations et 60 à 70% de la mortalité. Il y a une étude qui a été faite chez des gens de plus de 75 ans. Il y avait 15 000 sujets, c'était des gens institutionnalisés. Ils ont montré que les patients vaccinés avaient une diminution de la mortalité de toute cause de 46% par rapport aux non-vaccinés. Donc ça a un impact sur la mortalité en général. Donc là, l'altération des réponses vaccinales vient sûrement surtout du fait de l'altération des réponses primaires, puisque les réponses secondaires sont souvent conservées en fait. Hein, voilà, je vais essayer un peu plus vite parce qu'il est... Alors, je vais passer assez rapidement sur la transplantation rénale, parce que c'est assez... Mais c'est quand même d'actualité, puisqu'on transplante les patients de plus en plus tard, heureusement, puisque les gens vieillissent de mieux en mieux et qu'on est de moins en moins bêtes, donc on s'aperçoit qu'on peut transplanter des sujets au-delà de 65 ans. Alors, les infections sont quand même la première cause de décès chez les patients greffés de plus de 50 ans, surtout dans la première année. Cependant, par exemple, pour le rein, l'espérance et la qualité de vie sont supérieures à la dialyse. Alors, l'impact des comorbidités est sûrement très important. Alors, il est montré qu'avec le vieillissement, en fait, il y a une diminution du risque de rejet aigu, mais par contre, on a une augmentation du risque de rejet chronique, en fait, avec l'âge. Alors, pourquoi je vais peut-être passer sur ces diapos. En gros, les greffons de donneurs âgés vont être plus immunogéniques, alors que les receveurs âgés auront moins de réponses immunitaires. En fait, on a tendance à donner des greffons de sujets âgés à des sujets âgés. Donc, en gros, c'est pourquoi je vous parle de ça, parce que je pense qu'il faut surveiller l'immunité de ces patients, et on ne le fait sûrement pas assez pour pouvoir adapter le traitement, immunosuppresseur, en fait. Alors, ce dont je voulais vous parler, c'est surtout l'impact de la polypathologie. Ça va pour clore un petit peu ce séminaire, puisqu'en fait, je vous ai parlé du vieillissement, mais je pense que la polypathologie a sûrement un impact plus important que le vieillissement immunitaire lui-même sur l'immunité, en fait. Et certaines pathologies comme le diabète, la bronchite chronique, auront sûrement un impact plus important sur la survenue d'infections que le vieillissement immunitaire en lui-même. Un des facteurs pathologiques qui est fréquent en vieillissant, c'est la dénutrition, puisque ça touche 50% des patients qui sont à l'hôpital. Quand on prend des gens âgés à l'hôpital, il y en a 50% qui sont dénutris. Ça touche entre 10 et 40% des patients institutionnalisés. Donc c'est vraiment un état pathologique fréquent. Et c'est le principal facteur qui va affecter de façon précoce la réponse immunitaire du sujet âgé, surtout cellulaire. En fait, elle entraîne une baisse, elle aggrave en fait la diminution des lymphocytes naïfs et l'augmentation des cellules mémoire. Elle entraîne une aggravation des réactions, de la diminution des réactions d'hypersensibilité retardée, une diminution de la synthèse d'interleukine 2, et également de l'activité des lymphocytes NK. Et en fait, quand on est dénutri, on rentre dans un cercle vicieux, puisque la dénutrition entraîne un déficit immunitaire qui va favoriser des infections. Souvent, ces infections s'accompagnent d'un état inflammatoire, avec sécrétion de cytokines pro-inflammatoires, qui, contrairement au sujet jeune, va être prolongé. Le sujet âgé se remet plus difficilement, par exemple, d'une pneumopathie, va mettre plus de temps, parce qu'il y a souvent une sécrétion prolongée de ces cytokines pro-inflammatoires. Et en fait, ces cytokines, elles vont entraîner un hypercatabolisme, vont entraîner une déviation des synthèses protéiques, elles vont aller puiser les protéines dans nos muscles, et du coup, vont également aggraver encore la dénutrition. Et malheureusement, en gériatrie, c'est un phénomène qu'on voit assez souvent, c'est cette spirale un petit peu infernale de la dénutrition, avec au départ peut-être une dénutrition exogène, ce sont des gens qui ne mangent pas assez pour une raison X ou Y, ils vont perdre du poids, ils vont être confrontés à un premier épisode pathologique, ils vont encore s'aggraver, il y aura une dénutrition endogène par l'hypercatabolisme, on aggrave encore son déficit immunitaire, nouvel épisode pathologique, et puis souvent ça se termine assez mal. Alors, Bah nous, gériatres, il faut qu'on arrive à rompre ce cercle vicieux. Ce n'est pas toujours facile, mais on essaie de s'y atteler. Alors, il y a certains déficits en micronutriments aussi qui peuvent avoir un impact sur l'immunité. Donc, par exemple, la vitamine A, elle a un rôle dans le maintien de l'intégrité des épithéliums respiratoires et intestinales. La vitamine E, c'est un antioxydant qui, en fait, il a été montré qu'une supplémentation en vitamine E chez la souris et chez l'homme permet de restaurer les déficits de la fonction T liés à l'âge, en fait. Et également, en pratique clinique, il y a une étude, j'en ai pas vu d'autres, qui a montré qu'il y avait une réduction du risque d'infection des voies respiratoires chez des patients institutionnalisés à qui on donnait de la vitamine E. Donc je pense qu'il faut avoir d'autres études quand même pour avoir plus de recul là-dessus. La vitamine D, alors là, moi je suis à fond pour la vitamine D, excusez-moi, j'en donne à tous mes patients. C'est pas qu'une vitamine, c'est probablement une hormone aussi, qui a un rôle dans la défense antibactérienne antituberculeuse, puisqu'en fait, il y a plus de tuberculose chez par exemple, les patients noirs qui synthétisent moins bien la vitamine D du fait de leur peau noire. Il y a plus de tuberculose chez les femmes voilées aussi, qui ne sont pas trop exposées au soleil. C'est également un facteur prédictif de lymphopénie et de lymphopénie B, également un marqueur de fragilité. Donc je vous engage à donner de la vitamine D à vos patients, à en prendre vous-même. Le zinc, en fait, a probablement aussi un rôle dans l'immunité non spécifique et adaptative, et la supplémentation en zinc pourrait diminuer l'incidence des infections. Là aussi, il n'y a pas énormément d'études là-dessus. Et le fer a également un impact sur l'immunité à médiation cellulaire. Il réduit la carence en fer, réduit également les fonctions des polynucléaires neutrophiles. Voilà, alors quelles sont les perspectives? Je pense qu'il y a pas mal de gens qui travaillent là-dessus, mais c'est pareil, ça coûte très très cher, c'est comme en génétique, c'est des études, toutes les études sur le vieillissement, les études d'immunité coûtent assez cher. Donc le but, c'est d'essayer de mieux comprendre les mécanismes du vieillissement et puis d'essayer de développer des stratégies de prévention de l'involution de ces organes lymphoïdes. Essayer de mieux comprendre, je vous ai parlé des adipocytes qui pénètrent dans le thymus, de mieux comprendre l'origine de ces adipocytes, d'essayer de trouver des facteurs qui vont contrôler leur développement, et puis d'essayer de développer des traitements qui restaurent l'architecture et la fonction stromale. Et on pense que ces stratégies pourraient probablement augmenter l'espérance de vie. Alors, il y a des gens qui ont étudié la restriction calorique chez la souris. La restriction calorique permet de maintenir l'infopoïèse thymique, également le répertoire cellulaire T. Ça diminue le vieillissement cellulaire T, mais par contre, ça a un impact sur les réserves énergétiques. Donc, en fait, chez la souris, ça a des impacts divergents. Chez le primate, ça peut être aussi néfaste, la restriction calorique. Mais c'est bien beau d'avoir un impact positif sur l'immunité, mais si vous mourrez à côté de famine, c'est pas très bon non plus. Donc, il y a quand même un essai qui est en cours. C'est un essai qui est randomisé, apparemment. Donc, c'est des gens qui sont en restriction calorique de 25%. Alors, il y a une analyse intermédiaire que je vous ai rapportée là, qui montre qu'il y a une excellente compliance, mais on attend les résultats. Voilà, après, d'autres perspectives, éventuellement, c'est peut-être de faire des rappels de l'enfance au milieu de la vie, en fait, pour booster les cellules mémoire existantes. Ça pourrait être intéressant. Et puis, je pense, peut-être, dans l'avenir, le développement d'un vaccin contre le CMV pourrait avoir un intérêt sur le vieillissement immunitaire. Donc, en conclusion, le vieillissement immunitaire, en fait, c'est un remodelage complexe qui se fait progressivement tout au long de la vie, qui touche surtout l'immunité cellulaire, avec donc des modifications des populations lymphocytaires, vous l'avez vu, baisse des cellules naïves, augmentation des cellules mémoire, donc là aussi une inversion du rapport cellules naïves, cellules mémoire, et également qui a sûrement un lien avec les stimulations antigéniques chroniques, par exemple le cytomégalovirus. Alors, est-ce que ça pourrait être intéressant de faire une évaluation plus précise de l'immunité cellulaire des patients âgés? probablement que dans la transplantation rénale, ça pourra avoir un intérêt. Pourquoi pas définir un âge immunologique? Mais là, c'est des questions en suspens. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci.